Ils sont souvent représentés par la pauvreté, l'incivisme et l'insécurité. Mais la question est, y a-t-il de mauvais roses dans ces quartiers? Retrouvez sur Radio Veritas le magazine Mon Quartier, Mon Toit, votre magazine de valorisation des quartiers populaires. Mon Quartier, Mon Toit, les quartiers populaires vus autrement. Mon Quartier, Mon Toit, les quartiers populaires vus autrement.
La rentrée scolaire, cet événement important marquant le début du calendrier académique, a démarré sur des chapeaux de roue le 4 septembre dernier. Élèves, écoliers sont concernés et bien déterminés à prendre le train en marche. Cependant, entamer ce périple ne se fait pas sans embûches. Aussi, les associations des quartiers populaires ont été à pied d'œuvre afin de rendre la tâche légère à travers des dons octroyés aux nécessiteux, nourrissant le désir ardent d'être scolarisés. Alors, quelles actions ont été menées par les dites associations en préparation à la rentrée scolaire? Quels ont été les bénéficiaires et comment ceux-ci ont accueilli ces initiatives? Tels sont les questionnements qui feront l'objet de cette édition du magazine Mon Quartier, Mon Toit, placée sous le thème « Action et mobilisation des ressources par les associations des quartiers populaires pour une rentrée scolaire réussie ». Pour en parler dans ce studio, nous recevons Madame Kamgan Dombé-Zervinette. Bon après-midi, Madame.
Merci, bon après-midi à vous.
Nous recevons également Madame Catherine Tondier. Bon après-midi, Madame Tondier.
Bon après-midi.
Bon après-midi également à vous, chers auditeurs, et bienvenue à cette nouvelle édition de votre rendez-vous mensuel Mon Quartier, Mon Toit sur les antennes de la 96.9 FM Radio Veritas. Notons que cette émission est faite à travers le projet de promotion et de protection du droit au logement décent par l'appui à l'amélioration des quartiers. Vous pouvez également nous suivre sur YouTube, Twitter et Facebook. Notons que cette émission se fait sous la supervision de Monsieur Armand Noué, chef de projet d'appui à l'amélioration des quartiers populaires, et notre reporter Yann Gouet est assistant de mise en onde. À la technique, nous avons le doyen Ako. À la présentation, je suis Gladys Sagné. Nous entamons la première partie de notre émission par la présentation exhaustive de nos invités du jour. Bon après-midi une fois de plus, Madame Dombé.
Merci, bon après-midi.
Alors, est-ce que vous pouvez nous dire dans quel quartier vous résidez et nous en dire un peu plus sur vous?
Bon, déjà, moi, c'est Kamga Dombé, Marie-Zévinette. Donc, je réside au quartier Tennis-Saint-Michel, précisément à la montée BBR.
D'accord. Oui. Et sinon, quel est le nom de votre association et pourquoi? Qu'est-ce qui a motivé sa création?
Donc, notre association se nomme Association Main sur le Cœur. Et c'est une association qui a vu le jour au mois d'août 2020, de l'année 2020, précisément dans la région du nord septentrionale du Cameroun. Alors, s'il faut parler des motivations, les principales motivations qui nous ont amené à mettre en place cette association, déjà le fait que professionnellement je suis cadre technique de développement, gestionnaire des projets humanitaires, et c'est dans le cadre de l'exercice de mes fonctions dans la partie septentrionale du Cameroun que j'ai été particulièrement beaucoup marquée par certains faits dans des villages assez éloignés qui se vivent mais qui ne se racontent pas. Nous avons recensé un bon nombre d'enfants sous-scolarisés ou bien qui n'ont même jamais eu la possibilité de mettre les pieds dans une salle de classe. Et bref, nous avons vécu dans ces différentes communautés plein de choses qui sont un peu difficiles à expliquer. Donc, à partir de là, nous avons dit, mais pourquoi faut-il attendre toujours du gouvernement ou bien des autorités religieuses? Parce qu'il faut noter là-bas, l'autorité religieuse compte beaucoup. Alors, est-ce que nous, à notre niveau, on ne peut pas s'organiser avec ces différentes autorités et puis quelques personnes de bonne volonté, voir comment la prochaine rentrée académique, on pourrait apporter un appui à ces enfants, disons vraiment défavorisés. Donc voilà d'où est partie cette initiative. Et puis nous sommes mis ensemble, petit comité, on a commencé à réfléchir sur les sujets, les règlements de l'association, etc. Et puis voilà comment, puis du jour au lendemain, l'association a vu le jour.
Très bien. À votre suite, je donne la parole à Madame Tondier. Bon après-midi une fois de plus.
Bon après-midi Gladys, bon après-midi chers auditeurs.
Alors dites-nous de quel quartier est-ce que vous venez et dites-nous en plus sur vous.
Alors moi je réside actuellement au niveau de Japoma, c'est dans le 3e arrondissement de la ville de Douala. Voilà donc quel est mon quartier. Je suis Madame Tondi Catherine, comme vous l'avez dit. À la base, je suis cadre de développement, option économique, sociale et solidaire. Actuellement, j'officie au sein du CODAS Caritas Douala pour le compte du projet d'appui à l'amélioration des politiques d'amélioration du cadre de vie. J'officie comme chargée du suivi, évaluation et capitalisation. En dehors de ce côté professionnel, dans ma vie associative, je suis membre fondatrice d'un bon nombre d'associations, les Dames Glamour, le CADES et une ou deux autres initiatives.
Voilà. Très bien. Parlons donc du CADES. Qu'est-ce qui a motivé la création de cette association et qu'est-ce que ça signifie?
Alors, le CADES, c'est le collectif des Amis pour le développement économique, social et solidaire. Comment est le CADES? Nous finissons trois à quatre jeunes dames qui finissent leur parcours au niveau de l'Institut panafricain pour le développement Afrique centrale. Là-bas, nous étions toutes en filière de management de projet. Alors, une fois fini notre diplôme dans la poche, nous nous disons, ok, d'accord, nous avons plus ou moins toutes fini avec déjà un emploi. Que pouvons-nous faire qui rentre vraiment dans le cadre de ce que nous avons appris et qui vise à veiller à la solidarité intergénérationnelle, vraiment être solidaire de ceux qui sont là, mais surtout des générations à venir. Alors l'idée nous vient de mettre en place une association parce que nous avons tout le profil de management des projets, gestion et management des projets. Et c'est comme ça que nous tenons notre toute première assemblée générale au mois de septembre 2014. Ensuite, et suivant la réglementation en vigueur, nous entamons les procédures pour obtenir la légalisation, ce qui est fait au mois d'avril 2016. Il faut donc dire que nous avons pratiquement 7 ans aujourd'hui et nous menons notre petit chemin.
Et quel est le rôle que vous occupez au sein du CADES?
Je suis la coordinatrice, je suis membre fondatrice et l'actuelle coordinatrice du CADES.
Et en quoi consiste ce rôle?
Alors, en ma qualité de coordinatrice, j'ai le devoir de veiller à ce que les activités prévues en début d'année se réalisent. Je gère aussi beaucoup plus l'interface relations publiques. Il faut préciser que nous avons quand même la particularité dans notre association d'avoir des membres répartis dans le monde. On a des personnes sur plusieurs continents. Et donc, du coup, le travail de coordination se fait vraiment, ça dit, il s'agit de coordonner nos actions, quel que soit le lieu où on le met en place en fonction de qui le fait. Une fois que les planifications, les programmations et les activités à mener sont arrêtées, on les met en œuvre. Par la suite, comme nous sommes éparpillés, je vais employer cette expression, le côté relations publiques est aussi beaucoup plus de ma responsabilité. Travailler, échanger avec les partenaires, ceux qui nous approchent, ceux qui sont, qui veulent en savoir plus sur l'association, ce qu'on peut faire pour leur venir en aide, est-ce que oui ou non on peut leur monter un projet, si oui, comment ça se passe et autres. Voilà, de manière ramassée, l'essentiel de mes fonctions de coordinatrice du CADES.
Madame Dombé, quelle est votre fonction au sein de la main sur le cœur et en quoi consiste-t-elle?
Okay, l'association Main sur le cœur, moi je suis fondatrice de l'association Main sur le cœur et coordinatrice aussi des activités générales. Donc il est de ma responsabilité de veiller à la bonne exécution des différentes activités qui sont définies en fonction du calendrier. Dans notre association, la particularité, c'est que on ne se limite pas au titre, aux fonctions qui nous est attribué. C'est-à-dire, que tu sois fondatrice ou bien que tu sois responsable de la communication ou bien responsable des activités génératrices de revenus, toute personne est appelée à faire valoir ses fonctions aussi bien dans son poste défini que dans toutes les activités relatives à l'association.
Merci à Mme Dombé et Mme Tondier qui ont pris la peine d'être avec nous aujourd'hui et de nous présenter brièvement leur association dans cette édition de notre chronique. Nous plantons le décor des associations des quartiers populaires qui pourvoient les fonds au profit des nécessités désireux d'être scolarisés dans les actions valorisantes sont au bénéfice de ceux-ci en matière de mise en œuvre des missions favorisant une opportunité optimale de scolarisation.
Le 4 septembre 2023 était jour de rentrée scolaire pour des milliers d'enfants dans la ville de Douala et sur l'ensemble du territoire camerounais. Douala est une ville cosmopolite qui s'est vue accueillir il y a quelque temps un grand nombre de ressortissants du nord-ouest et du sud-ouest dû à la crise et regorgeant en son sein des nécessités qui, principalement en cette période particulière marquant le début des cours dans les établissements scolaires, ne s'en trouvent que plus soucieux eu égard à leurs moyens limités et parfois inexistants. C'est là qu'intervient les associations des quartiers populaires, travaillant à pied d'œuvre et agissant en synergie dans le sens d'apporter une aide substantielle à la préparation de cet important cycle scolaire tant redouté par les parents, surtout ceux à revenus insuffisants ou dépourvus de moyens financiers. La rentrée scolaire a parfois un goût amer, particulièrement pour les familles dans le besoin, partiellement endommagées, totalement démolies ou parfois obligées de quitter leurs biens et souvent même leurs familles en quête de lieux qu'ils espèrent plus sécurisés. C'est dans ce contexte que certaines associations des quartiers populaires avides de donner une chance à ces valeureux nécessiteux ont travaillé résolument en préparation à cette nouvelle rentrée scolaire. Pour ce faire, les dites associations pourvoient des fonds à travers des cotisations internes, des dons octroyés par des âmes de bonne volonté, de leur entourage, en lançant des vibrants appels via des médias ou en vulgarisant des outils de communication et organisant des levées de fonds. Il s'agit notamment de l'Association des habitants pour le développement de Bépanda Yonyon qui a pour mission l'amélioration des conditions de vie des habitants des quartiers populaires. À travers son projet Back to School, elle ambitionne de donner le sourire aux enfants et élèves sous-scolarisés du quartier Bépanda Yonyon et Petit Vouri. Cette association a eu pour objectif de cibler et venir en aide à 260 élèves du cycle maternel, primaire et premier cycle du secondaire afin de distribuer des fournitures utiles à la préparation de ce nouveau cycle scolaire afin d'aider les tout-petits à démarrer leur rentrée sur des chapeaux de roue. Entre autres associations, nous pouvons également nommer l'association Main sur le cœur, qui, quant à elle, a pour mission de promouvoir et de contribuer à réaliser les objectifs du développement durable tout en protégeant et sauvegardant les intérêts des personnes vulnérables. Au rang de leurs actions précédemment menées, on compte la distribution des fournitures scolaires à plus de 50 élèves du primaire de l'arrondissement de Ngong, département de la Benue, région du Nord Cameroun. De même, l'organisation de 2 arbres de Noël en faveur des enfants sourds-muets au courant des 2 dernières années. Quant au CADES, collectif des amis pour le développement économique, social et solidaire ayant pour cible les femmes et les jeunes, il est surtout question de placer au centre de leurs préoccupations ou actions la promotion d'un développement soucieux et respectueux du bien-être de l'homme et solidaire des générations présentes et futures. Ces missions consistent à appuyer les actions de développement économique, social et solidaire à travers notamment le renforcement de capacités des femmes et jeunes, promouvoir la solidarité intergénérationnelle comme gage de la pérennité du développement économique et social, réaliser des études de recherche pour informer et sensibiliser les organisations de la société civile et les organismes gouvernementaux. Dans le cadre de son exercice, aussi à travers son projet pilote d'appui aux enfants déplacés internes, du nord-ouest et du sud-ouest à Douala. Le dit projet a eu lieu le 9 septembre 2023 et a eu pour but la remise des dons aux enfants déplacés internes. cette activité pionnière a pour objectifs principaux d'apporter de l'aide aux jeunes et aux enfants déplacés internes venant du Nozo et installés à Douala et aux orphelins afin qu'ils bénéficient d'une rentrée scolaire de qualité dans un établissement agréé. Par ces différentes actions caritatives, les associations des quartiers populaires entendent donner une opportunité de scolarisation optimale aux enfants nécessiteux à travers les dons nécessaires et utiles au déroulement de leur rentrée scolaire au sein d'établissements agréés. Elles forgent ainsi leur vision et mission dans l'adoption des actions primordiales et pérennes, favorisant l'exercice de ces enfants dans leur environnement éducationnel respectif. Ils ambitionnent également de donner une lueur d'espoir, espérant que, comme tout autre enfant, ils puissent s'acquérir des outils nécessaires pour arriver à bon port.
De ce qui précède, nous pouvons retenir que les associations des quartiers populaires entendent donner une opportunité de scolarisation optimale aux enfants nécessiteux à travers des dons nécessaires et utiles au déroulement de leur année scolaire et au sein des établissements agréés. Elles forgent ainsi leur vision et mission dans l'adoption des actions primordiales et pérennes, favorisant l'exercice de ces enfants dans leur environnement éducationnel respectif. Rappelons que vous écoutez l'émission Mon quartier, mon toit sur les 96.9 FM Radio Veritas. Le thème porté à votre attention cet après-midi s'intitule « Action et mobilisation des ressources par les associations des quartiers populaires pour une rentrée scolaire réussie ». Vous pouvez nous suivre sur Facebook, Twitter et YouTube en tapant tout simplement « Projet AQP ». Madame Kangan, quelles sont les actions menées dans le sens de la qui ont été menées dans le sens de la préparation à la rentrée scolaire qui a eu lieu le 4 septembre dernier?
Donc, pour ce qui est de la rentrée académique 2023-2024, nous avons procédé un peu comme à l'ancienne, comme à l'habitude, mais avec un peu d'originalité. Alors, qu'est-ce que nous avons fait? Nous sommes ayant déjà, en fonction du calendrier d'activité qui était prévu, le volet à rentrée scolaire, appui à la rentrée, à la scolarisation des enfants défavorisés, nous avons pu recenser 50 enfants défavorisés du cycle primaire et secondaire qui ont bénéficié de cet appui. Et comment est-ce que nous avons procédé? Nous avons fait d'abord une mobilisation des ressources financières et matériel. Donc, nous avons dressé les correspondances aux autorités administratives, religieuses, ainsi qu'aux personnes de bonne volonté, leur expliquant la problématique de la scolarisation des enfants dans des quartiers populaires. Et à la suite des réponses favorables, des réactions favorables, nous avons pu mettre à la disposition de ces enfants bénéficiaires des fournitures scolaires comme des cahiers, des livres au programme, des cartables, des stylos à billes, bref, tout le petit matériel nécessaire pour une bonne rentrée scolaire pour chaque enfant.
Et concernant dans les fonds dont vous avez parlé tout à l'heure, comment s'organise leur mobilisation?
Déjà, nous avons un responsable qui s'occupe de la comptabilité des finances et la rentrée des fonds s'est faite soit par dépôt. Nous avons des comptes Orange Money et Mobile Money. Nous avons eu des dépôts Orange Money, Mobile Money. Et ensuite, nous avons aussi des personnes qui se sont déplacées physiquement pour donner leur contribution. L'ensemble de tout cela est regroupé, comptabilisé et puis archivé.
Et sinon, quels sont les moyens de communication que vous utilisez souvent pour faire savoir l'étendue de vos activités?
Donc, beaucoup plus qu'aux moyens de communication, nous avons beaucoup plus de réseaux sociaux. Nous avons Facebook. Nous avons aussi notre... beaucoup plus par Facebook, WhatsApp. Oui, beaucoup plus.
D'accord. Donc, nous notons que vous communiquez plus par les réseaux sociaux.
Oui.
Madame Tondier, quelles sont les activités que vous avez organisées dans le cadre de la préparation à la rentrée scolaire?
Alors, la préparation à la rentrée scolaire. Gladys, il faut dire qu'au niveau du CADES, nous avons lancé depuis 2001 le projet pilote d'appui aux personnes déplacées internes vivant dans la commune d'arrondissement de Douala 4e. Et la mission que nous nous sommes donnée là-bas auprès de ces personnes déplacées internes, c'est de contribuer à la scolarisation des jeunes enfants. Alors, depuis 2021, pour la toute première édition, ce que nous avons fait, c'est via nos agents terrain qui se sont appuyés sur les chefs de communauté. Nous sommes rentrés dans les communautés principalement au niveau de Ngwele. Ça, c'est dans le 4e arrondissement et environ au niveau de Bounassama. Nous nous sommes appuyés sur les leaders de communauté pour identifier des enfants de personnes déplacées internes. Mais surtout, de s'assurer que les enfants que nous recherchons, notre cible à nous, étaient vraiment des enfants dans le besoin d'appui ou d'accompagnement. C'est comme ça, donc, que nous avons construit notre première liste de 50 enfants en 2021. Et là-bas, la première édition, donc, de la remise des dons, parce que chez nous, cette phase du projet-là est déjà la troisième édition. Donc, pour la première édition en 2021, nous avons fait d'abord une activité de sensibilisation. Il faut dire que chez nous, la sensibilisation est super importante. L'enfant va à l'école, mais le parent reste vraiment la cheville ouvrière, le maître mot. Il doit pouvoir suivre, veiller sur son enfant. Il ne suffit pas d'envoyer l'enfant à l'école. Il y a tout ce qui vise, tout ce qui entoure l'enfant par la suite, qui doit être au top pour espérer avoir de bons résultats en fin d'année. C'est pour ça que depuis la première édition, nous avons plus ou moins toujours une activité de sensibilisation, quelquefois avant, quelquefois pendant, quelquefois après. Pour la première édition qui a eu lieu le 27 août 2021, là nous avons eu gracieusement la salle des actes de la commune d'arrondissement de Douala 4e. Nos 50 récipiendaires étaient là et un peu plus même finalement. Alors, ils étaient là et nous avons procédé à la remise des dons. L'année d'après, là en 2022, la remise des dons a eu lieu le 8 septembre 2022 et cette fois-là, on était au centre social de Bonabéry. Cette année, l'activité a eu lieu le 9 septembre, le samedi 9 septembre. Nous étions toujours au centre social. Il faut dire que chez nous, nous nous sommes donné une méthodologie. Nous avons notre cible de 50 enfants et nous nous rajoutons, nous continuons avec ces enfants-là tant qu'ils réussissent leur classe ou leur examen. Voilà les principaux critères chez nous. Donc, les 50 ou les 54 avec lesquels nous avons commencé en 2021 sont plus ou moins les mêmes que nous sommes en train d'accompagner. Voilà. Quand ils réussissent leur examen, le récépissé le bordereau de réussite à l'appui, on le garde dans la cohorte pour l'année suivante. Et c'est comme ça que nous avons donc mené le 9 septembre dernier, comme je vous disais tantôt, la troisième édition. Cette fois-là, avec pratiquement 54 enfants
Donc, pour résumer, c'est pas vous qui vous occupez de suivre les enfants, mais vous sensibilisez les parents pour qu'ils continuent de suivre les enfants après avoir reçu les dons pour les scolariser.
Ce n'est pas nous qui suivons les enfants. Nous faisons un certain niveau de suivi. Je vais l'appeler comme ça, un certain niveau de suivi. Parce que dans le cadre du projet, nous avons deux types d'appui. On a un appui en matériel, en fourniture scolaire. C'est ce que nous appelons la remise des dons. Mais en dehors de cela, il y a ce que nous avons appelé le parrainage. Le parrainage, c'est une âme de bonne volonté qui identifie un enfant soit parmi les 50, soit parmi la liste des enfants que nous avons rencontrés, suffisamment aux nécessités ou alors qui répond aux critères de la personne et qui décide de prendre entièrement cet enfant en charge. Donc, on a déjà eu des enfants parrainés. Là, c'est une forme de suivi. Pour les autres qui ne bénéficient pas de suivi, parce qu'après, jusqu'ici, nous sommes à moins de 3 enfants qui ont déjà eu effectivement ce type de parrainage. Pour les autres, donc, avant la remise des dons, il y a une activité de sensibilisation sur les violences, la désobéissance, pourquoi il faut aller à l'école, quel est l'intérêt d'aller à l'école, éviter la délinquance juvénile, les affres ou les conséquences liées à la délinquance et le sexe chez les jeunes filles. Voilà le type de sujet que nous traitons pendant les sensibilisations. Il faut dire qu'à la deuxième édition, nous avons mis un accent aussi sur les parents, parce qu'après on s'est rendu compte que l'enfant seul ne fait pas tout. Si le parent ne fait pas sa part de travail dans le suivi des activités au quotidien d'un enfant qui est à l'école, il y a de fortes chances que, quand bien même il aurait eu l'ensemble des fournitures scolaires et les frais pour son goûter à l'école, qu'il ne parvienne pas à réussir. Alors, les parents ont été interpellés sur leur responsabilité pendant la période scolaire. Veillez à ce que les enfants tiennent correctement le cahier, veillez à ce que les devoirs soient correctement faits. Rappelez aux parents qu'ils ont le devoir d'être et de rester un exemple pour leurs enfants, avec ce qu'ils font chaque jour au quotidien devant ces enfants-là. Nous avons appelé cela la parenté positive. Et c'est la présentation que nous avons faite en début de remise des dons, samedi 9 septembre dernier.
Et comment est-ce que s'organise la mobilisation des ressources au sein de votre association?
Alors, au sein de notre association, depuis 2021, depuis que le projet a été adopté, nous avons ce que nous appelons d'abord au sein de l'association les cotisations réglementaires. Alors, en dehors des cotisations annuelles, chaque fois qu'un projet est validé, nous arrêtons un montant de cotisation. Parce que qui dit projet dit ressources financières, il faut de l'argent pour mener cela. Mais bien sûr, nos fonds ne suffisent pas. Et voilà. Donc, à côté de cela, nous avons mis en place, depuis la deuxième édition, une sorte de campagne de communication. Nous lançons une campagne de communication pratiquement un mois avant. Et nous, de cette manière-là, nous arrivons à lever les fonds auprès d'âmes de bonne volonté. Alors, la campagne de communication se fait avec des outils très simples. Nous montons de tout petits spots, 30 secondes, juste de quoi tenir sur un statut WhatsApp que nous diffusons sur nos statuts à nous les membres et les sympathisants. Nous diffusons sur notre page Facebook, sur nos statuts LinkedIn et ainsi de suite. Voilà. Cela fait que l'information est connue et partagée et bien sûr, ça ramène vers nous un bon nombre de personnes intéressées par l'action et surtout des âmes de bonne volonté qui font par la suite parvenir leurs dons, leurs contributions financières en nature et autres au numéro ou alors au lieu qui sont indiqués. Voilà. D'accord. Comment nous levons les fonds.
À la suite de votre propos, écoutons cet extrait de Madame Tiquin, présidente du comité d'organisation du projet Back to School et membre de l'association des habitants pour le développement de Bépandayonyon qui décline les motivations de la mise en œuvre de la première édition du dit projet.
Je suis membre de l'association des habitants pour le développement de Bépandayonyon, Diane Tiquin. Je suis la présidente du comité d'organisation du projet Back to School. Notons que c'est la première édition. Pourquoi nous avons décidé d'organiser ce projet? Notons que l'objectif d'éduquer les jeunes fait partie des objectifs que nous poursuivons au quotidien dans notre association. Ceci dit, au-delà d'être un objectif, c'est une réalité qui nous a été propre. Nous avons connu ce qu'on appelle le manque, aller à l'école plus d'un mois sans un cahier. Et nous sommes dit pourquoi aujourd'hui ne pas penser à ces jeunes qui vivent dans des situations précaires, des situations difficiles. Nous le savons, derrière un jeune démuni se cache peut-être un futur président, un futur homme d'affaires, une future femme d'affaires, une future communicatrice et bien d'autres choses. Alors pourquoi ne pas contribuer à donner de l'avenir et de l'espérance à ces jeunes? C'est la question que nous nous sommes posées. Et en rapport avec notre vécu qui est un fardeau que nous portons particulièrement, nous avons décidé de mettre sur pied ce projet et de venir en aide à ces enfants afin de leur dire qui ne sont pas seuls. Il y a des gens qui pensent à eux et qui portent leur cause au quotidien. Merci.
De ce qui précède, nous pouvons retenir que l'un des objectifs primordiaux de l'Association des habitants pour le développement de Bipanda Yonyon est de venir en aide aux jeunes qui vivent dans la précarité afin de pourvoir à leur façon à la fourniture de manuels scolaires afin qu'ils entament au mieux leur cycle éducatif. Alors, Madame Dombé, tout à l'heure, vous parliez des différentes activités en rapport avec la rentrée scolaire menée au sein de votre association. Quels en étaient les objectifs?
Comme principal objectif, on avait comme principal objectif de pouvoir mobiliser suffisamment de fonds nécessaires pour la rentrée de ces 50 enfants.
D'accord.
C'était le premier objectif. Parce que nous avons, avec l'appui de certains chefs de bloc, nous avons recensé ces enfants qui sont véritablement des nécessiteux, avec leur carnet scolaire et bulletin et autres à l'appui, justifiant du fait qu'ils ont le statut d'élève, bien qu'ils peuvent déjà être scolarisés. Donc, avec cette liste de 50, nous nous sommes dit, voilà, nous avons 50 enfants qui ont besoin de nous pour cette rentrée scolaire. Alors, mettons tous les moyens possibles pour avoir les moyens, les fonds nécessaires, les matières, afin que chacun de ces 50 enfants puisse effectivement reprendre la route des classes dès le premier jour de la rentrée.
Madame Tondji, quels étaient les objectifs principaux de l'activité en rapport avec la rentrée scolaire dernière?
Pour l'édition 2023, la troisième édition du projet d'appui aux enfants déplacés internes de l'arrondissement de la quatrième, nous nous sommes donné trois objectifs. Le tout premier, c'était de poursuivre, et peut-être je vais dire au départ, c'était de finaliser l'appui aux jeunes, aux 54 récipiendaires retenus pour la toute première édition en 2021. Le deuxième objectif, c'était de travailler, appuyer la sensibilisation sur la connaissance de les affres de la délinquance juvénile, la nécessité d'aller à l'école, la parenté responsable. Et enfin, le troisième objectif, c'est cette année qu'on s'est donné, c'était de parrainer 5 enfants. Il faut dire que pour les éditions précédentes, l'objectif au niveau du parrainage, c'était 3 enfants. Et alors, cette année, nous sommes passés à 5. Voilà ce que nous sommes donné comme objectif pour cette édition.
Et sinon, est-ce que vous avez des activités prévues au sein de votre association concernant votre calendrier annuel ou mensuel?
Pour le compte de cette année, je vais dire qu'on a un calendrier en fonction des projets. Je vais parler particulièrement de ce projet qui traite et touche les enfants, la scolarisation des jeunes enfants. Après la remise des dons le samedi 9 septembre, nous prévoyons une activité de sensibilisation, toujours dans la commune d'arrondissement de Douala 4e, et là ce sera avec les jeunes et les mamans des enfants récipiendaires. Cela s'est prévu pour les mois de fin octobre et novembre. Vraiment une campagne de sensibilisation. Par ailleurs, et vu que nous arrivions là, au départ, notre projet, c'était 3 phases. C'est-à-dire la première phase 2021, la deuxième, cette année, c'était la troisième phase. Alors, vu que nous étions là à la troisième phase, nous avons prévu au mois de décembre et janvier une activité de suivi et d'évaluation. Alors, cela va consister à faire quoi? Ressortir l'ensemble des jeunes qui ont été suivis, la première liste de 50, voir quels sont ceux qui sont restés avec nous, c'est-à-dire qui ont à chaque année réussi leur examen ou leur classe supérieure, qui sont restés dans le package, voir la liste des personnes que nous avons rajoutées en cours de chemin, parce qu'il faut le préciser ici. Comment se fait le changement? Donc, quand il y a un enfant qui échoue sa salle, le passage en classe supérieure ou alors son examen, nous le sortons de la cohorte de bénéficiaires et nous donnons la possibilité à un autre enfant dans le même besoin vraiment de bénéficier de ces dons-là. Pour nous, vraiment, on n'a pas grand-chose, mais on se dit si on arrive à mettre du temps, des ressources pour pareille action, tout ce que nous souhaitons et demandons en retour, c'est que les enfants réussissent leur classe, réussissent leur examen. Donc, l'activité d'évaluation visera à évaluer tout cela. Qu'est-ce que ça a produit concrètement? Quels sont les effets de pareille action dans la commune d'arrondissement de la 4e? Comment les parents ont accueilli véritablement ce que cela leur a apporté en plus? Et au terme de cette activité d'évaluation, nous comptons faire un point de presse pour communiquer enfin sur notre vision de l'appui à la scolarisation. Il faut dire que pour nous, c'est un projet, nous l'avons appelé projet pilote, sur 3 années. Alors nous comptons présenter ce jour-là, je pense que ce sera au mois de janvier ou février, à l'opinion publique nationale et internationale, notre expérience de l'appui à la scolarisation. Quels sont les bons côtés, quels sont les risques à prendre en compte pour celles ou ceux des autres associations qui font dans le même champ que nous ou ceux qui voudraient faire dans le même champ, quelles sont les choses à véritablement prendre en compte et autres. Et une fois que ce sera fait, nous allons changer de topic parce qu'après, notre cible, c'est la femme et la jeune fille. Donc, il y a tellement d'autres projets à mener dans ce sens-là. Mais voilà quel est notre calendrier pour la fin d'année en relation avec notre activité de scolarisation.
Mais notons à la suite de votre propos que Madame Dombé a eu dans son propos comme objectif primordial de leurs activités de scolariser à tout prix les enfants nécessiteux. Est-ce qu'en dehors de cette activité que vous aviez précédemment nommée, il y en a d'autres concernant votre calendrier annuel ou mensuel?
Oui, effectivement Gladys. Donc, déjà en tant qu'association, nous sommes une personne morale avec plusieurs objectifs à atteindre. Donc, en plus de l'appui à la scolarisation des enfants démunis, défavorisés, en plus de cette activité qui est une activité récurrente, c'est-à-dire que au terme de chaque année, au cours de chaque année académique, nous avons au moins 50 enfants qui bénéficient de l'appui à la scolarité. En plus de cette activité, en tant qu'association, nous apportons aussi des accompagnements, des appuis techniques à d'autres associations sœurs, notamment dans les domaines de conception, montage et mise en œuvre des activités de leurs projets. Donc, à l'instar de l'association des femmes albinos du Cameroun, qui nous sollicite de temps à autre pour un accompagnement, un technique, conseil pour la mise en place et l'exécution de leurs activités. Et en plus de cela, ce que nous avons prévu relancer avant la fin de cette année 2023, c'est la relance des activités au niveau de la plateforme des OSC du littoral. Parce qu'il faut le dire, l'association Mains sur le cœur est membre de la plateforme des organisations de la société civile littorale. C'est vrai, nous avons un peu été en retrait vu les difficultés que nous avons entre ces deux associations, mais nous sommes en train de revenir. Et puis le dernier point aussi, c'était mettre l'accent sur la communication. C'est une association qui a 3 ans d'âge et en train de se construire, en train de mettre en place des points pour se faire connaître. Donc, nous avons estimé qu'il aussi est important, il est important pour nous de mettre l'accent sur la communication, que ce soit sur le plan national et international. Et surtout que les membres de l'association Mains sur le cœur sont représentés dans les 10 régions du Cameroun.
Madame Tondier, comment est-ce que vos récipiendaires ont accueilli cette initiative?
Alors, c'est toujours un moment d'intense d'émotion. Quand ces enfants-là emploient leurs propres mots pour nous dire merci. Merci à ceux qui contribuent à ce que cette activité de remise des dons se fasse. Donc, au niveau des récipiendaires, je vais dire qu'ils sont satisfaits, c'est le satisfaction. Et pour cette édition particulièrement, c'est également le satisfaction au niveau de la mairie de Douala 4e. Le 3e adjoint maire qui était présent pendant la cérémonie n'a pas manqué de préciser son satisfaction. Il nous a demandé de poursuivre l'action. Parce que comme je vous le disais tantôt, chez nous, nous étions en mode fin de la première phase, fin de cette phase-là. Il était question pour nous de passer à autre chose. Il nous a expressement rappelé de poursuivre encore une deuxième phase, c'est-à-dire 3 années encore. L'idée pour lui, ce serait d'être capable d'avoir tenu un enfant sous tout un cycle. Nous avons trouvé l'idée vraiment intéressante, véritablement intéressante, et bien sûr, il ne s'est pas arrêté là. Il nous a donné les moyens, je vais dire qu'il nous a donné une voie de moyens en nous demandant de nous rapprocher vers lui pour la formalisation d'une collaboration, d'un partenariat. C'est vraiment quelque chose qui a apporté, je ne sais pas s'il y a une meilleure façon d'exprimer son satisfaction, mais voilà comment nous avons ressenti cela. Au niveau là du partenaire institutionnel. Le centre social de Douala 4e, avec qui nous sommes depuis la deuxième édition, elle également a été très ravie de l'édition de cette année. Elle également, elle nous a fait une recommandation. Celle d'associer, de voir dans quelle mesure élargir notre cible, notre gamme. Parce que, comme je vous le disais tout précédemment, nous sommes toujours dans plus ou moins 5 ans. Nous sommes dit, OK, on commence avec eux. S'il y a un enfant qui échoue, c'est un enfant qu'on remplace. Nous avoisinons toujours les 50, 54 enfants récipients des dons. Elle a suggéré que nous élargissions un tout petit peu plus pour permettre à beaucoup plus d'enfants de bénéficier de cela. C'est pour vous dire que là, sur notre table, au niveau du CADES, nous avons donc ces recommandations-là. Nous ne comptons pas donner lettre morte à ces recommandations. Nous comptons les mettre en pratique et donc très bientôt nous verrons ce qui sera. Alors, au vu de ce que je vous ai présenté précédemment, je peux dire que les récipiendaires sont satisfaits. C'est pas grand chose, ça vient du fond du cœur et ils sont satisfaits, ils comprennent cela, ils apprécient cela.
Madame Dombek, comment est-ce que vos récipiendaires à vous ont accueilli votre initiative?
Alors là, Gladys, c'est très émouvant. Lorsque vous voyez cet enfant sourd ou muet, qui reçoit son cartable, qui reçoit ses fournitures scolaires, livres et cahiers. C'est-à-dire, il vous fait des grands signes, il vous fait des gestes avec la main pour vous dire merci. Et quand vous voyez un enfant de 12 ans, de 15 ans, de 7 ans, faire des signes puisqu'il n'arrive pas à parler, pour vous dire merci, 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 vraiment c'est très touchant. Et ils ont une façon à eux d'exprimer leur joie, leur satisfaction, pour vous dire merci. Vraiment, c'est, par exemple, en 2020, lorsque nous avons fait la remise des fournitures scolaires aux enfants dans le village de Ngon, précisément, il fallait voir comment les parents faisaient des pas de danse, des wouhours, tout simplement pour vous dire merci. Donc, ce sont des choses qu'il faut vivre pour pouvoir vivre, expliquer, bon, utiliser les mots, oui, c'était la joie, la gaieté, mais ce sont des sensations fortes. Quand vous rencontrez ces enfants-là, pour cette édition, nous étions à l'école mixte des enfants sourds et muets, et puis les enfants, donc puisque c'est une école mixte, nous avons des enfants sourds, muets, et puis des enfants sans handicap.
Ils sont souvent représentés par la pauvreté, l'incivisme et l'insécurité. Mais la question est, y a-t-il que de mauvaises choses dans ces quartiers? Retrouvez sur Radio Veritas le magazine Mon Quartier, Mon Toit, votre magazine de valorisation des quartiers populaires. Mon Quartier, Mon Toit, les quartiers populaires vus autrement. Mon quartier, mon toit, les quartiers populaires vus autrement.
Précédemment, nos invités du jour nous faisaient part des émotions qu'ont ressenties les différents récipiendaires quant aux actions qu'ils ont menées dans le cadre de la réalisation des activités relatives à la rentrée scolaire qui a eu lieu en début septembre dernier. Notons également que le projet de promotion et de protection du droit au logement décent par l'appui à l'amélioration des quartiers populaires, en abrégé projet AQP, a effectué une étude sur la valorisation du potentiel durant la période de septembre à novembre 2022. Lors de cette étude, les forats effectués dans les quartiers cibles du projet Bépandayonyon, Mabanda, Boneonda Matanda, Newton Aéroport 2 et Oyak 1 ont spécifié qu'il existe des potentiels économiques, sociaux et culturels au sein de ces quartiers populaires. Alors, Madame Tondier, comment et en quoi est-ce que vos actions permettent de mettre en avant un ou plusieurs aspects de ces potentiels?
Alors, accompagner des enfants. Vous savez, le potentiel humain, c'est déjà ces enfants-là qui sont capables, ça dit capables de produire, c'est une source de production certaine, mais c'est également la manière certaine d'assurer une solidarité, une continuité dans ce que nous faisons. Donc, pour nous, nous travaillons, quand nous allons à Bonassama et Angouéré, choisir ce type de potentiel-là qui n'a pas accès, qui pour nous peut ne pas atteindre son plein épanouissement parce qu'ils n'ont pas accès à l'école nous nous disons OK, avec eux, il y a une action à mener. Donc, contribuer à la scolarisation des enfants, des personnes déplacées internes pour nous, c'est une façon de contribuer à le meilleur épanouissement du capital humain, principalement des quartiers Ngwele et Bounassama dans le 4e arrondissement, parce que voilà où se trouve principalement notre cible. Ça, c'est ce qu'il faut le dire. Maintenant, sur le plan économique, je vais dire que nous avons nos actions de sensibilisation, touchent un tout petit peu le plan économique, dans ce sens que le travail qui est fait avec les parents, le travail d'éducation à la parenté positive et autres, vise également à rendre ces parents-là aptes à mieux gérer la rentrée scolaire avec le peu de moyens qu'elles ont. On n'est pas en mode production des ressources ou activité génératrice de ressources, mais on est en mode optimisation de l'utilisation de ce qui existait déjà auprès de ces parents-là. Donc, je vais dire qu'au niveau du CADES, pour le potentiel identifié dans les quartiers, nous agissons sur deux potentiels, principalement le potentiel humain et dans une certaine mesure l'aspect socio-économique.
Madame Dombé, en quoi est-ce que vos actions participent de ces potentiels éventuellement humain ou alors économique, en mettant en avant les différentes voies que vous utilisez pour mobiliser vos fonds?
D'accord, Gladys. Avoir la forte mobilisation des personnes de bonne volonté et ces gestes que ces personnes de bonne volonté portent, que ce soit des gestes des appuis, des manifestations en espèces ou en nature, cela ressort, montre déjà l'élan de solidarité qui existe pour ces couches défavorisées. Donc, je tiens à préciser que nos enfants bénéficiaires dans la ville de Douala, ce sont principalement les enfants sourds et malentendants. On les retrouve dans le centre d'éducation pour apporter leur appui. Et pour le faire, la mobilisation se fait sur tout le plan national et voire même international. Donc, au sorti de là, nous voyons cet esprit de solidarité, cet élan social que la personne humaine dit, bon, moi, qu'est-ce que je peux apporter, qu'est-ce que je peux faire en plus pour ces personnes qui véritablement sont des personnes nécessiteuses. Donc, il y a ce geste de solidarité. Donc, nous dirons que à travers ces activités d'appui à la rentrée scolaire des enfants démunis, nous voyons ressortir au sein de la communauté, de la population camerounaise, particulièrement un élan de solidarité. Donc cette solidarité qui nous amène à nous entraider, même si parce que là nous avons vu des parents qui venaient avec un cahier, un bic, vous dit voilà ce que moi j'apporte comme contribution. C'est-à-dire, quel que soit votre revenu, que vous ayez un revenu stable ou pas, on peut faire un geste. Donc n'attendons pas d'avoir 1 million, 1 milliard, pour dire bon voilà, à partir de ces 1 million, 1 milliard que j'aurai demain ou après-demain, je pourrai faire un geste. Donc même avec ce que nous avons, nous pouvons mettre du sourire, nous pouvons permettre à un enfant d'avoir un cartable, de pouvoir s'inscrire, de pouvoir avoir des livres et autres.
Merci. À la suite de votre propos, faisons place à la rubrique micro-trottoir où notre reporter, Monsieur Yann Guit, a tendu le micro aux bénéficiaires des activités relatives à la rentrée scolaire menée par les associations des quartiers populaires.
Are you happy?
Yes.
Are you happy?
Yes.
Okay.
Good afternoon, everybody. I want to tell the Kalila thank you for everything. Thank you for helping us with our school. Without you, we can't do anything.
I'm so surprised. I'm very, very happy for back school. The cadeaux, the paquets qu'ils ont participé, la tâche aux parents. I'm so happy. Et l'enfant est très fier aussi. Vous êtes fier, est-ce que tu es fier?
Pensez aux enfants comme ceux-ci-là. Demandez le sacrifice.
Je dis merci à l'association de défendre la défenseur de m'avoir donné donc pour la rentrée scolaire 2023-2024. Merci beaucoup.
Merci. Et j'ai très fait mon paquet, mon petit sou. Lundi, on m'avait à l'école.
Merci à notre reporter, M. Yann Gwit, pour cet extrait enrichissant. Alors, Mme Tonji, après avoir écouté cet extrait, qu'est-ce que vous ressentez après avoir entendu tous ces enfants vous dire un mot par rapport à tout ce qu'ils ont reçu comme biens et outils pour la rentrée scolaire?
La satisfaction, c'est la joie. On a le sentiment d'avoir réussi la mission que nous nous sommes donnée, veiller à la solidarité inter- et intragénérationnelle. Pour nous qui sommes sur Terre actuellement, nous sommes en train de, là, par l'acte que nous posons, nous veillons à ce que our elder brother and sister, nos petits frères et sœurs, participent et aient la possibilité, comme nous autres, de continuer des études et de mener de meilleures études. Et maintenant, pour ceux qui arrivent, pour ceux qui viendront bien après, nous, avec ce type d'action, et c'est ce que nous leur avons précisé ce jour-là, nous souhaitons les voir être capables de faire la même chose que nous beaucoup plus tard. C'est pour ça que chez nous, d'où notre mission, l'économie sociale et solidaire. Aujourd'hui, nous qui sommes là, nous veillons à ce que eux, ils aient accès à une éducation de qualité. Eux, ils aillent à l'école comme nous autres, nous avons eu la possibilité de le faire. Mais nous souhaitons également que ces enfants-ci, ils nous disent merci et autres, mais nous leur disons, le meilleur merci, c'est de réussir votre salle de, votre examen ou passer en classe supérieure, mais surtout de faire pareil beaucoup plus tard. Dans 20 ans, dans 15 ans, quand vous aurez un emploi, pensez à vos frères et sœurs qui n'ont pas la possibilité de rentrer à l'école. Donc pour nous, c'est mission accomplie, c'est objectif atteint, c'est well done.
Madame Dombé, quelles sont vos réactions après avoir entendu cet extrait?
Le dernier intervenant, ce petit garçon, je crois que c'était un garçon.
Oui,
le petit garçon qui disait, quoi il disait? Oui, lundi, je vais à l'école. Donc vous sentez, il avait déjà une assurance, une garantie qu'effectivement, lundi, il ira à l'école. Donc, à les entendre, ça ne peut que nous procurer de la joie et nous galvaniser davantage pour que demain, nous puissions mobiliser encore plus de moyens afin d'apporter un appui à plus d'enfants, à un plus grand nombre d'enfants que ce précédent.
Madame Tonji, quels sont les risques? Tout à l'heure, vous nous parliez des risques concernant les associations qui se lancent dans le domaine de l'appui à l'éducation ou alors à la formation en général. Quels sont les risques selon vous pour une association qui se lance dans ce domaine-là?
Alors avec la petite expérience que nous avons, nous estimons, nous, CADES, que choisir de mener une action d'appui à la scolarisation, des enfants, d'un certain type d'enfants n'est pas sans risque, effectivement. Pour notre cas, pour les personnes déplacées internes, nous avons constaté, par exemple, il y a une tendance à, c'est un peu qu'il faut employer, nous avons observé chez nos récipiendaires une tendance à se laisser aller. Je vais dire que nous avons constaté, par exemple, et je partage avec vous, au moment du recensement des enfants qui ont passé la classe supérieure dans le Sadiqué pour préparer l'édition, nous sommes rendus compte que les parents se relâchaient un peu. Vraiment, pour y relâcher, ils disent, ok, à la rentrée, nous-mêmes, on va appeler la dame du CADES, elle va venir voir que tu as passé et donc ton sac de classe et autres, c'est déjà assuré, voilà. Donc voilà un risque, je vous présente la terre à terre un risque. L'autre risque, c'est une sorte de récupération, et là, malheureusement, il faut pourtant en parler, une sorte de récupération par d'autres entités qui en font un autre usage. Vraiment, l'intérêt pour nous, c'est de contribuer à la scolarisation des enfants. Maintenant, il est hors de question de travailler sans respecter la réglementation, alors ne pas associer les services compétents en la matière. Mais avec certains partenaires ou certaines personnes physiques, ils font un tout petit peu de récupération, il faut le dire clairement, ils font un tout petit peu de la récupération. Et à une ou deux reprises, nous avons rappelé que le droit à l'image est quand même un droit protégé, donc il y a des choses qu'il faut éviter de faire. Par ailleurs, nous, ça c'est vraiment notre expérience, nous estimons aussi que pour ceux des enfants, par exemple, parce que nous, on accorde chez nous ce qu'on appelle les bons CADES aux universitaires, voilà. Pour ceux des enfants qui sont à l'université, vraiment, chez eux, le risque d'être certain que le bon est vraiment par la suite
acheminé.
Non, nous, on ne remet pas le bon en main propre à l'étudiant. La condition pour avoir droit à son bon, c'est de s'inscrire. c'est de s'inscrire. Maintenant, comme il est déjà un grand garçon, là, on ne parle plus d'un enfant de cours élémentaire ou cours élémentaire 2. Nous faisons le dépôt du montant du bon à l'enfant. Mais après, le risque qu'on identifie pour cette catégorie de récipiendaires, c'est est-on certain qu'il affecte effectivement cet argent-là à ça,
à cette action-là.
À cette action-là. Parce qu'après, on se dit quand même que à un certain âge et à un niveau de responsabilité acquis, pas besoin de rentrer et de revenir. Déjà qu'on a trouvé pas pertinent pour ce type de récipiendaire, un enfant qui va en première année, en deuxième année, un enfant en licence, de lui faire un sac avec fourniture autre nom, on se dit il a beaucoup plus besoin d'autres choses, surtout qu'on, sachant comment fonctionnent nos établissements supérieurs. Voilà. En dehors de ça, il faut aussi, je souhaite qu'un moment signaler que l'autre risque que nous avons identifié, c'est celui d'une une sorte de... On pourrait être tenté, hein, vraiment, quand on a des hommes de bonne volonté qui réagissent beaucoup, on pourrait être tenté d'affecter cet argent-là à autre chose. Je le dis, vraiment, je vais le dire clairement. Quand les hommes de bonne volonté réagissent, ils réagissent à la base pour appuyer l'action que nous avons présentée, c'est-à-dire veiller à ce qu'un enfant vraiment ait le nécessaire pour l'école. Mais faisant un chemin et pendant la réalisation de l'activité, il y a des parents, des gens qui nous disent, mais voilà, pensez aussi à augmenter nos frais de transport, parce que nous remboursons les frais de transport. Pensez à augmenter nos frais de transport pour venir à l'activité et rentrer. Pensez à augmenter le goûter. Et puis là, on se dit, mais non, là, on veut déjà sortir vraiment du cas. L'esprit, c'est de contribuer à la scolarisation des enfants. Donc, 80% au moins des fonds collectés doivent être automatiquement injectés là-bas. Le reste, en fonction de ce qui est disponible, on peut avoir une petite bouteille d'eau, partager un beignet. Et quand il n'y en a pas, il n'y en a pas. Donc, l'autre risque, c'est ça. Lever les fonds, mais après, vu les besoins, les envies et autres, ne pas sortir carrément du cadre pour lequel, à un moment donné, la levée de fonds avait été effectuée.
Madame Dombé, quelles sont les difficultés que vous rencontrez généralement au sein de votre association?
Alors, comme difficulté dans le cadre de cette activité d'appui à la rentrée scolaire des enfants nécessiteux, nous sommes rendus compte que sur le terrain, lorsque nous procédons au recensement, à l'identification effective des enfants nécessiteux, ont besoin d'être scolarisés. Donc, si nous ne sommes pas extrêmement vigilants sur le terrain, parce que sur le terrain, nous travaillons avec les parents et ainsi qu'avec les leaders religieux et traditionnels. Donc, si nous ne sommes pas extrêmement vigilants, nous pourrons rendre compte que on peut prendre un enfant on peut enregistrer un enfant qui n'est pas nécessiteux à la place d'un vrai bénéficiaire. Donc, il y a ce risque-là de ne pas remettre le présent, le cadeau, l'appui à la cible indiquée. Donc, il y a un travail de fourmi qui se fait à la base, recenser effectivement ces enfants nécessiteux. Et l'autre risque aussi, c'est que lorsque nous arrêtons, par exemple, un nombre, on se dit, bon, ok, opération cette entrée scolaire, 75 enfants. Après avoir procédé à l'identification effective de tous ces enfants, nous sommes à la phase de mobilisation des fonds. Mais là, on se rend compte que les fonds disponibles pour cette activité à l'instant T sont insuffisants. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Là, nous sommes appelés à mettre davantage la main dans la poche, parce que il y a des fonds propres de l'association et puis il y a des fonds sous forme de dons. Parfois, on peut faire face à cette insuffisance financière ou matérielle pour un nombre d'enfants bien défini.
Action et mobilisation des ressources par les associations des quartiers populaires pour une rentrée scolaire réussie, tel est le sujet qui a fait écho cet après-midi en présence de Mme Tondier Catherine, chargée suivi évaluation capitalisation du projet d'appui à l'amélioration des quartiers populaires et également responsable de l'association CADES. Madame Kamgan Zervinette, coordonnatrice de l'association Main sur le cœur. Cette émission a été réalisée sous la supervision de M. Armand Noué, chef de projet d'appui à l'amélioration des quartiers populaires, et notre reporter Gabi Nguet à la mise en onde. Sachez que vous pouvez nous suivre sur Facebook, Twitter et la chaîne YouTube en tapant tout simplement Projet Occupé à la Technique. Nous avons le doyen Emmanuel Ako à la présentation. Je suis Gladys Sani. Restez scotchés sur les antennes de la 96.9 FM Radio Veritas.